Et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, cette quatrième semaine, après avoir vécu la semaine de la joie, après le dimanche, le troisième dimanche, où vous étiez invités à entrer dans une contemplation joyeuse du Christ qui vient, en quelque sorte, cette quatrième semaine, tout comme les moines qui méditent d'abord pour ensuite transmettre, c'est l'entrée dans une action, celle de la charité. Car le Christ vient dans la réalité de nos vies à travers ma contemplation et l'action conséquente qui ne peut être que la charité. Alors, je vous propose de voir d'abord le Christ qui vient pour voir ensuite la charité, tout simplement. Le Christ qui vient, c'est une attente. Ne vous y trompez pas, mes bien chers frères, et comme tous les ans, nous avons le grand risque de nous réjouir simplement, parce que c'est une réunion de famille et nous avons bien raison, parce qu'un enfant qui naît c'est toujours une joie et nous avons bien raison, mais cela n'est pas le motif de l'instauration de la fête de Noël. Le motif de l'instauration de la fête de Noël qui est bien difficile à comprendre intérieurement pour nous, c'est le bouleversement du monde. C'est que le Très-Haut se soit fait très bas, c'est que l'immense se soit fait petit, c'est que l'incommensurable se soit fait mesurable, c'est que l'indicible se soit dit et montré. C'est ça Noël, c'est l'incarnation, c'est-à-dire le renversement tel qu'il est difficile de l'imaginer. Toute notre préparation n'a que ce but, tenter de nous faire entrer petitement dans cet esprit de renversement du monde, le monde qui venait de Dieu et qui était perdu, le Seigneur l'a renversé pour le remonter et le sauver. C'est ça l'incarnation. Alors, nous chantons, bien entendu, les antiennes en haut. Le Saint-Père a rappelé, il y a 10 jours, que nous entrions dans la grande neuvaine de Noël. 9 jours où nous chantons à chaque fois une antienne différente qui commence par « Oh !» comme une exclamation. Une exclamation pour nous, un désir de connaître Dieu. Et le dernier jour, c'est aujourd'hui « Oh Emmanuel !» Dieu avec nous. Voilà ce qui réjouit notre cœur, l'Esprit-Saint qui vient à nous, nous donne de contempler cette incarnation, et elle s'est passée là. Quand je dis là, c'est selon le tableau qui est derrière moi, mais elle s'est passée il y a 2000 ans, près de Jérusalem, à Nazareth, cette incarnation. Et peut-être vous dites-vous, ben, c'est très beau, mais quel rapport y a-t-il entre cette jeune fille juive il y a 2000 ans et moi ? Aujourd'hui, ici, en France, eh bien, contempler le monde dans son incarnation, c'est entrer, comme le dit saint Ignace de Loyola, dans le colloque divin qui embrase la terre et le ciel et l'univers, qui contemple la terre et qui voit qu'elle va à sa perte. C'est l'amour universel du monde que le Seigneur a voulu sauver, mais pour ce faire, il décide d'envoyer Gabriel à une fille, une vierge de la maison de Judas. Elle s'appelle Marie. Et oui, l'universel est une idée, mais la réalité est toujours particulière. Voilà pourquoi les chrétiens, attachés à cette particularité, cette incarnation, faite ce jour-là, à travers cette femme-là, n'est pas anodin. La Vierge Marie n'est pas un accident de l'histoire, c'est une disposition divine. Après avoir préparé tout le peuple d'Israël à la venue du Messie, il réalise sa venue à travers cette femme-là, la nouvelle Ève, celle qui était déjà promise dans la Genèse après la chute, alors que tout le monde aurait dû mourir et que le Seigneur a permis que nous vivions. C'est d'ailleurs le sens du nom d'Ève, la vivante, la vie. Et alors, il est déjà promis que sa descendance à cette femme qui viendrait écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire vaincrait le mal. Et voilà que se réalise en Marie cette incarnation. Elle est l'arche de l'alliance, de la nouvelle alliance. Nous le savons mieux que personne à Saint-Roch, c'est marqué dans nos murs. Il y a juste derrière cette chapelle, une petite chapelle qu'on ne remarque pas et c'est fait exprès. Et dans cette chapelle, il y a une arche d'alliance. Et le constructeur l'a mise à un endroit où elle ne serait pas éclairée. L'arche d'alliance est fondamentale pour comprendre la venue du Christ, sinon nous ne comprenons pas d'où nous venons. Mais cette alliance s'est éteinte au profit de la lumière du Christ qui réalise pleinement sa promesse. Voilà pourquoi, dans la pleine lumière de cette chapelle dans le jour, c'est la Vierge Marie qui est là et le Christ sur l'autel. Voilà ce que nous fêtons à Noël, cette réalisation du tabernacle vivant qu'est la Vierge Marie, qui a réalisé en elle-même, par l'opération de l'Esprit-Saint, la présence du Christ. Alors nous aussi, nous nous réjouissons et nous espérons que l'écoute de ces paroles, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile, mes pauvres explications qui sont accessoires, mais ce qui est essentiel, c'est la parole vivante du Christ qui, une fois de plus, va s'incarner après être venu il y a 2000 ans sur terre, dans un endroit particulier, né à Bethléem. Il continue de venir à chaque Eucharistie grâce à ce sacrifice fait une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux. Il se rend présent à nous, lui l'Éternel, dans ce temps que nous disposons, que nous abandonnons à sa volonté. Voilà à quoi nous sert Noël, à comprendre le mystère de l'incarnation dans le temps et à travers notre temps. Alors, quels en sont les fruits? Mes bien chers frères, c'est mon deuxième point. Je vous l'ai dit, c'est la charité en action. Regardez la contemplation qui nous est donnée aujourd'hui du texte de l'Évangile, de ce passage de la visitation. Marie vient de recevoir l'annonce de l'ange qu'elle allait enfanter le Sauveur. Elle aurait pu peut-être s'enorgueillir et rester assise chez elle, se fabriquer un trône pour attendre qu'on vienne l'adorer. Mais ce n'est pas ce qui se passa. À l'idée même qu'elle allait être la mère du Sauveur, alors que, comme une preuve qu'elle ne demandait pas, l'ange lui dit que sa cousine était Élisabeth, Élisabeth était déjà enceinte, eh bien, elle se leva et elle alla la servir. Et oui, je regrette beaucoup que la nouvelle traduction n'ait pas bien traduit le grec, je ne sais pas pourquoi, pourtant la Bible en grec est accessible facilement, vous allez le comprendre. Il est marqué « Marie se mit en route ». Mais dans le grec, on dit « Marie Anastasa », elle se leva l'Anastasis. C'est-à-dire que portant en elle le Christ, elle se lève, elle est déjà ressuscitée, elle porte le salut. Voilà pourquoi l'évangéliste avait bien marqué qu'elle se levait. Détail inintéressant historiquement, car pour aller d'un point à un autre, il faut bien entendu se lever. Or, dans l'Évangile, il n'y a rien d'innocent. Si on marque qu'elle se lève, c'est pour nous préciser qu'elle, en elle-même, ce n'est pas une nouvelle, une idée qui est dans sa tête, c'est la réalisation de la promesse qui est déjà dans son corps. Elle participe déjà de la résurrection de l'humanité qu'elle va porter à sa cousine Élisabeth. Oui, la descente du Christ, ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire le fait qu'il se soit fait petit, qu'il se soit incarné, qu'il est descendu jusqu'à nous, cette descente, cette renonciation à sa condition divine pour se faire homme, eh bien Marie prend le même chemin. À l'instant même, elle se met en route, elle se lève et va servir sa cousine. Bien entendu, il y a quelque chose de très humain et de très naturel qui nous échappe un peu, mais il faut savoir qu'au premier siècle, eh bien, c'est aux femmes qu'il incombe d'aller chercher l'eau au puits, une tâche particulièrement difficile et impossible pour une femme enceinte avancée. Voilà pourquoi, à l'annonce d'une femme enceinte, immédiatement, la charité presse ses cousines d'aller à son secours et d'effectuer ce service. Nous aussi, qui entendons la parole divine aujourd'hui, il nous appartient de nous mettre au service, de nous mettre à l'écoute, c'est l'obéissance de la foi. Bien entendu, ce n'est pas une obéissance contrainte, c'est une obéissance d'amour. Aimer, c'est se mettre en dessous, quoi qu'en disent tous les sociologues qui refusent l'idée de l'amour gratuit. Aimer, c'est vouloir être au service de l'autre, ce n'est pas une soumission sadique, car dans un véritable amour, l'un et l'autre se regardent comme le plus petit. Il n'y a pas d'autre véritable solution pour l'amour que ce de mettre au service l'un de l'autre. Alors voilà ce que Marie fait, et elle le fait en toute hâte. Pour le coup, il faut que je sois honnête, on a mieux traduit, avant on disait « en toute hâte », ce qui pouvait faire penser que Marie avait quelque chose de fébrile à l'annonce de l'Esprit-Saint. Pas du tout, on a certainement mieux traduit aujourd'hui, en disant « elle se lève avec empressement ». Elle se lève avec vigueur et un désir profond de servir. Oui, l'amour ne se fait pas attendre, vous le savez. Quand on obéit par contrainte, on obéit in extremis. Mais quand on obéit par amour, on obéit le plus rapidement possible. Quand on veut le bien de l'autre, ce n'est pas demain. Sinon, c'est qu'on ne le veut pas vraiment. Alors voilà, Marie, notre modèle de l'Église, se lève avec empressement et va vite courir. Voilà notre modèle spirituel, nous qui courons à la messe, nous qui courons au pied de la crèche, contempler l'enfant, que cela produise en nous les mêmes fruits. Croyez bien, mes bien chers frères, que c'est possible. C'est-à-dire que ce qui s'est produit en la Vierge Marie se produira en vous aussi. Si vous avez la même ardeur, le même désir, le même abandon, le même amour, c'est une grâce, demandez-la, vous produirez des fruits qui vous seront propres. Il est appartenu à Marie de concourir à la venue du Verbe éternel sur terre, mais vous aussi, vous entendez la même parole de l'Esprit-Saint, vous aussi, vous allez recevoir dans votre corps la présence même du Christ, vous aussi, vous allez enfanter le Christ. Car le Christ aujourd'hui, c'est l'Église répandue et communiquée jusqu'à la fin du monde. Vous aussi, vous allez enfanter l'Église. Réjouissez-vous que vous puissiez encore maintenant faire naître l'Église de Dieu, le salut apporté au monde, le salut de votre âme. Amen.